Chers publics, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres.
Sophie Durocher.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, il s'est produit quelque chose de très particulier. J'ai regardé ma montre toute la journée hier en me disant « Coudon, on est-tu encore? On est-tu vraiment en 2024? » Je vous explique ce qui se passe. Ben, vous le savez, vous en avez déjà entendu parler à l'heure qu'il est. On est donc au Parlement, à la Chambre des communes à Ottawa et les députés doivent voter sur une proposition. Vous savez que à l'heure actuelle, les députés prêtent serment. Bon, avant c'était à la reine, maintenant c'est évidemment au roi Charles III. Et il y a une proposition du député René Arsenault qui dit, ben écoutez, moi je propose plutôt qu'on ait l'option, on a le choix. Ceux qui veulent continuer à prêter serment au roi vont continuer à le faire selon leurs convictions intimes. Ceux qui sont pas à l'aise avec ça vont plutôt prêter un serment de fonction. Un serment de fonction, c'est les députés auraient juré, je vais exercer mes fonctions dans l'intérêt supérieur du Canada et dans le respect de sa constitution. Moi, j'aime ça, donner le choix aux gens. Tu sais, t'arrives chez McDo, veux-tu un trio avec Coke, pas de Coke? Ben là, ça aurait été la même chose à Ottawa. Ben non, la motion a été défaite, les gens n'ont pas voté pour ça. Mais ceux qui ont voté pour le maintien du serment au roi, tu aurais pu dire, écoutez, on a gagné, beding, bedang, on rentre à la maison, on veut pas de l'option du serment de fonction, puis on n'est pas obligé de prendre le nez de nos adversaires idéologiques puis de le tremper dans leur pipi, là. Ils auraient pu être élégants. Ils auraient pu, bon, simplement dire on a gagné, puis la motion est refusée. Ils se sont mis à faire ceci. Alors, ils se sont mis à chanter « God Save the King ». C'est quand même assez hallucinant qu'on ait des députés qui poussent l'audace jusqu'à vanter la gloire du souverain qui règne sur le Canada. On le sait que c'est notre chef d'État, on sait que c'est sa face qu'il y a sur nos billets, on sait tout ça, puis en plus, on est obligé de prêter serment au roi. Par respect, ne serait-ce que pour les Acadiens qui ont été déportés, par les villages qui ont été pillés, par les femmes qui ont été violées, par nos compatriotes acadiens qui ont été déportés au nom justement du roi d'Angleterre, juste par respect pour ces gens-là, je pense que ces députés-là auraient pu s'abstenir. Ça manquait d'élégance et ben, y a un mot pour décrire ce comportement-là, c'est le mot « coloniser ».
Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
En ce moment, à Paris, ben, le Salon du Livre de Paris, ben, c'est le Québec qui est à l'honneur. Donc, il y a des écrivains québécois qui sont invités un petit peu partout. Il y a une grosse délégation d'écrivains québécois qui sont en France, qui sont à Paris en ce moment. Puis ça donne l'occasion des fois d'avoir des déclarations assez surprenantes. On va en parler avec Rémi Villemur qui est étudiant au doctorat en sociologie. Rémi, bonjour.
Bonjour Sophie.
Alors parle-moi de notre ami Kevin Lambert.
Ouais, puis on va commencer par reconnaître une chose parce que je sais qu'on pense la même affaire toi et moi sur cette question-là. Un écrivain peut écrire ce qu'il veut, il a le droit de penser ce qu'il veut.
Bien
c'est
sûr.
Pas ce dont on va parler. Moi c'est parce qu'il lance un souhait. On va jouer un extrait dans quelques instants. Je vais préparer un extrait, mais après cet extrait-là, il ajoute, OK, d'accord, il discute de l'histoire du Québec, du rapport avec les Autochtones, et il dit que l'important maintenant pour les gens qui sont les contemporains de ce phénomène-là, c'est de trouver des réponses dans les livres et dans la littérature. Et
ouais,
c'est dans la littérature qu'on trouve des réponses et qu'on réussit à mettre un terme à la souffrance et qu'on réussit à faire rayonner l'espoir. Donc moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Ouh là là, là, le problème, c'est que je lui donne encore le droit de tout écrire et de tout penser, mais puisqu'il en appelle à la littérature, J'ai peut-être une autre version de l'histoire, mais d'abord écoutons l'extrait.
Attends, ben attends, deux secondes, je veux juste spécifier parce que où il a dit ça. Donc, il y a une émission à la télévision française, une émission que j'adore, une émission littéraire. Je dis ça parce que ici, sur nos deux stations de télévision publiques, Radio-Canada, Télé-Québec, il n'y a aucune émission littéraire. Donc, à la grande librairie, on demande à chacun des à chaque émission, à la fin de l'émission, on demande à un des invités d'écrire un texte et de s'adresser à la caméra et de livrer son texte tel un éditorial littéraire. C'est dans ce contexte-là que Kevin Lambert, donc, a fait ceci.
Les ancêtres étaient des colons, main d'œuvre au profit de lords et d'exploitants, chargés de réaliser le rêve fou de possession du territoire. C'était, disait-on, leur destinée divine. Cowboys du Nord, ils s'établirent à l'encontre des lois coloniales avant qu'elles ne changent à la faveur des criminels. Là d'où je viens, on parle encore de ces gens comme de héros. Les Innus sonnèrent l'alarme. Les têtes
alors,
se dérobaient.
Donc, on peut pas jouer l'extrait au complet parce qu'on prendrait quasiment toute l'émission. Mais c'est très particulier parce que il associe donc nos ancêtres, les colons français qui sont venus ici, qui se sont établis ici, à des criminels sanguinaires. Puis on devrait pas les considérer comme des héros. En gros, si je comprends, parce que c'est assez confus, abscons, c'est pas super clair son propos.
Non, ben c'est ça. Mais en fait, moi, j'ai dû l'écouter 3-4 fois parce que je me demandais s'il parlait des Anglais. Non, il parlait bien des Canadiens français. Et quand on l'écoute la cinquième fois, mais ça prend quand même 5 écoutes, on réalise, Sophie, que en fait, ce qu'il dit, c'est que ben on est des criminels et que on
les Blancs.
Est oui, des Blancs.
Les Blancs, par rapport aux Innus, hein.
Oui, mais même les Canadiens français et que les Canadiens français qui ont occupé ce territoire-là après. Enfin, ils sont considérés comme des héros. Alors qu'il ne devrait pas l'être. Et là, moi, je me suis dit, waouh, ok, on est vraiment devant quelqu'un qui comprend pas son histoire. Il parle du Nitassinan, qui est un territoire aux frontières un peu nébuleuses, parce que dans la langue Innu, le mot frontière n'existe pas.
Intéressant.
Donc, c'est une construction, disons, symbolique, un territoire qui s'étend sur 140 000 km² de Québec au Labrador jusqu'au nord de Schefferville. Donc, c'est à peu près tout le Québec, là, honnêtement. C'est une grosse, grosse, grosse portion du Québec. Et sous le couvert de la littérature, donc, il insinue qu'on n'a pas d'affaires là et que les aventuriers qu'on nous a décrits dans la littérature, surtout du 20e siècle, eh bien, ce sont faussement des héros. Écoute, il fait pas la distinction entre l'expérience du régime français, clairement, et l'expérience du régime anglais. Sous le régime français, les rapports entre les nations autochtones, et elles étaient nombreuses, et les Français, c'était des rapports de nation à nation. D'ailleurs, il y a un événement qu'on devrait souligner à chaque été, et il faut pas se fier à Valérie Plante, parce que même si c'est survenu à Montréal, elle ne le fera jamais. C'est la Grande Paix de Montréal.
Ah oui, tout à fait.
1701. La Grande Paix de Montréal, là, Sophie, c'est peut-être le plus grand exercice diplomatique de la première moitié du 18e siècle. Ça a pris 10 ans. Réunir 1300 délégués, 39 nations autochtones, qui ont mis un terme à 100 ans de conflit. Et à la suite de ce traité-là, il n'y a pas eu de conflit jusqu'à la conquête britannique. Et
Valérie Plante,
la Grande Paix de
Montréal. Oui, mais Valérie Plante, elle a tweeté récemment que les Écossais étaient un des peuples fondateurs de Montréal. Donc, elle est un petit peu mélangée dans son histoire.
Non,
Mais la grande
elle dormait durant les cours d'histoire, elle ronflait pas mal. Mais écoute, c'est parce que moi, je m'en rappelle très bien de cet événement-là qu'elle ne souligne pas, parce que l'été dernier, je faisais de la radio à Cube et il y a eu le 78e anniversaire de la bombe à Hiroshima et elle a cru bon tweeter là-dessus, alors même que c'était le même jour ou alors deux jours avant la Grande Paix de Montréal et là, silence radio. Donc tu dis, elle se prononce sur ce qui se produit à Hiroshima et non sur ce qui se produit ici même à Montréal, mais Kevin Lambert, s'il aime les livres et s'il en appelle à la littérature, il faut qu'il relise l'histoire de Champlain, qui croyait au métissage. Champlain qui a fait la paix avec les Innus en 1603. Lui, en fait, c'est parce qu'il considère que l'histoire anglaise, c'est l'histoire française, que les Canadiens français sont les héritiers du régime anglais, qu'ils sont les représentants de ce régime-là, et c'est complètement faux. Et si on prend, par exemple... vas-y, je te laisse.
Non, mais ce que j'allais dire, c'est simplement que, bon, Kevin Lambert, faut rappeler quand même son roman « Que notre joie demeure » a reçu en France le prix Médicis, le prix Décembre. Il est adoubé par le monde littéraire français et le monde littéraire québécois. Et il n'hésite pas. Enfin, c'est arrivé quand même à quelques reprises des controverses. On pense à un moment donné quand le premier ministre François Legault avait dit tout le bien qu'il pensait de son livre, puis que Kevin Lambert avait dit « Wesh, vous avez rien compris à mon livre, puis j'aurais préféré que... » Il a rejeté complètement les compliments de la part du premier ministre. Et la deuxième controverse aussi à propos de Kevin Lambert, c'est quand ses éditeurs français avaient vanté le fait que pour écrire son livre, il avait fait appel à des lecteurs de sensibilité, puis que, mon Dieu, il était donc sensible et tout ça. Donc, ça a créé toute une controverse. Ce que je veux dire, c'est que Kevin Lambert, au-delà de son talent littéraire, c'est quelqu'un qui est aussi quelqu'un qui sent beaucoup l'air du temps. Et l'air du temps, en ce moment, c'est de n'avoir à la bouche que les mots « décolonisation ». Alors, quand on lui donne une tribune à l'émission littéraire la plus prestigieuse en France, qui est la Grande Librairie, puis qu'il regarde la caméra en pleine face, c'est sûr qu'il ne va pas parler de radis puis de tomates. Tu ne peux pas être plus dans l'air du temps que de dire « j'ai un privilège blanc, je fais partie d'un peuple qui est des méchants colonisateurs. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a de ça aussi dans son discours.
Mais tout à fait, mais alors à ce moment-là, il s'expose à la critique qui suit. Kevin Lambert, tu es un ingrat. Parce que quand le premier ministre du Québec dit que ton livre est bon et qu'il a apprécié le lire, tu te rappelles pas de ce que tes parents te disaient quand tu étais jeune, tu dis merci, tout simplement. Tu dis merci et ensuite t'avales la couleuvre. Et quand le Québec t'envoie à Paris représenter le Québec et que tu as la possibilité de t'exprimer, c'est quand même assez douteux que tu t'en prennes au Québec et que tu craches sur le Québec alors même que tu représentes le Québec. Et moi, si le Québec avait des choses à se reprocher, et il en a, je serais pas là en ce moment à te dire « ben, qu'est-ce qu'il est en train de dire? » Mais le problème, c'est que ce qu'il reproche au Québec, ça ne se fonde pas sur l'histoire du Québec, sur les sources qui sont à notre disposition. C'est un mensonge historique. Il ne connaît rien à son sujet. Il devrait écrire des livres. Et ils sont bons, il y a une belle plume, mais il devrait s'en tenir à ça, sincèrement.
Mais j'avoue que j'avais pas vu ça sous l'angle de ben c'est le Québec qui en va. Il y a quand même, je pense qu'il y a 25... enfin, il y a vraiment une grosse représentation. Puis ben, je suis très fière qu'on soit présent là-bas, évidemment. Mais c'est vrai que j'avais pas vu ça sous l'angle de ben on t'en va là-bas pour représenter le Québec. Puis bon, après peut-être que Kevin Lambert pense qu'il ne représente que lui-même. C'est aussi une possibilité. Jeune homme, merci beaucoup, Rémi. On se revoit la semaine prochaine.
Bye bye.
Merci.
Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure.
Achou! Achou! Excusez-moi, c'est les allergies saisonnières. Ben non, j'ai pas d'allergies saisonnières, pas en tout. C'est juste moi qui essaye d'être drôle en présentant le sujet de Jean-François Barry. Bonjour Jean-François.
Tes sketchs m'impressionnent de plus en plus à chaque jour. Hey, mais tu fais pas d'allergie, Sophie, du tout?
Pas du tout. Je sais même pas ce que c'est.
OK, mais je te pose une question. Est-ce que tu comprends les gens qui en font?
Mais j'ai énormément de compassion. Moi, j'ai un cœur grand ouvert. Donc, j'ai énormément de compassion pour les gens qui en font parce que ça semble pénible. Et c'est ton cas, mon beau Jean-François Damon. Oui.
Et moi, je vais être honnête avec toi, même si je pense avoir de la compassion. Avant, là, quand, si mettons, quelqu'un disait, ben, j'irai pas au meeting, je fais des allergies, là, ça n'a pas de bon sens. Je disais, hey, là. Le nez qui coule un peu, le fond de la gorge qui gratte, là. En vrai, rentre-toi. Je pensais que c'était une défaite pour aller jouer au golf. Et petite histoire, moi, je faisais pas rien de ça. Puis il y a peut-être une douzaine d'années, à un moment donné, je suis allé consulter mon médecin parce que ça allait plus. Je suis fatigué tout le temps. Puis là, je travaillais beaucoup à l'époque, le garde éclat à l'émission du matin. Ouais. Puis là, je suis fatigué tout le temps.
Tu faisais de l'argent dans ce temps-là.
Je faisais quand même d'argent, effectivement. C'est peut-être ça qui m'étourdissait. J'ai des étourdissements. Puis, fait qu'on a investigué, on a cherché différents. Tu sais, aussitôt que tu dis j'ai une fatigue qui veut pas partir, là, si vous cherchez n'importe quelle tumeur ou cancer, ça va commencer comme ça avec fatigue extrême. Et finalement, c'est lors d'un rendez-vous, parce que là, on a vu différents spécialistes, puis c'est lors d'un rendez-vous avec l'ORL, il m'a dit, mais tu fais des allergies, toi, c'est clair, tes sinus sont obstrués, puis c'est ça qui fait que l'air circule plus. Puis tu sais, ça m'arrivait, mettons, j'avais un fou rire, là, tu sais, tu ris super fort, puis là, quand tu reviens, là, ça se mélangeait un peu, là, parce que j'avais comme manqué d'air, tu comprends? Puis là, bien, évidemment, tu te mets à paniquer un peu quand ça t'arrive. Bref, les allergies, c'est réel. Et moi, depuis quelques jours, je fais... Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai compris, hier soir, en voyant sur ma piscine, il y a comme toutes des petites moumous là, que j'appelle.
Ah ouais,
moi,
des
sur,
petits moumous
l'eau.
Blancs, là.
Et ce matin, je vois Daniel Lamar. Daniel, oui, c'est ça, Daniel Lamar.
Diane.
Diane Lamar, excuse. À Salut Bonjour. Qui fait une chronique là-bas.
Et, à moins que le gars du Cirque du Soleil soit
oui,
rendu...
Oui, c'est ça. Il me semblait que ça existait, Daniel Lamar, Diane Lamar. Okay. Et elle me dit, elle dit là, tout le monde parle des allergies. C'est fou. Puis quand que la période arrive, là, on s'en ressent. Donc, les yeux qui coulent, le fond de la gorge qui picote. C'est comme un... Tu sais, quand on a un bon rhume de cerveau, là, puis qu'on a l'impression d'être au ralenti, c'est ça que ça fait, les allergies.
Comme un brouillard mental.
Comme une espèce de brouillard mental. Alors maintenant, je ne juge plus les gens qui disent « Non, aujourd'hui, je suis zéro efficace, j'ai des allergies. » Puis, tu sais, moi, je suis quand même capable de fonctionner là, avec maintenant des traitements. Mais il y en a qui sont incapables de fonctionner. Il y a un adulte sur cinq au pays qui en souffre.
Wow.
C'est des millions de personnes. Il y a énormément d'absentéisme au travail à cause de ça. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ça s'allonge, Sophie. Elle me disait que, elle disait lors de sa chronique qu'on est passé de 44 jours à 68 jours.
Parce dans que l'année? D'habitude,
ben, juste pour la première période, là, qui est souvent la plus intense avec le pollen, des arbres et tout ça. Parce que avant, en avril, on faisait quoi? On était à la cabane à sucre, on se faisait de la tire sans neige. Il y avait encore de la neige un peu partout. Il n'y avait pas des bourgeons, puis les maringouins sortis, puis tout ça comme aujourd'hui. Donc là, il y en a qui commencent déjà, certains arbres, certaines fleurs, puis il y en a que ça va être plus tard. Donc la période a une vingtaine de journées.
À cause du
plus.
Réchauffement, etc., puis le climat qui est complètement déréglé. C'est ça le lien que tu fais, d'accord?
Exactement. Et non seulement ça, mais à cause des arbres qu'on a plantés. Parce qu'on a planté des arbres pour purifier l'air. Okay? Mais là, moi, j'ai appris ça ce matin. Il y a des arbres femelles et il y a des arbres mâles.
C'est tellement donc, binaire. Ouais, Jean-François,
il y a des arbres, il y a des arbres qui sont
sera,
qui ont les deux.
Là? Moi, je connais un arbre, là, son ressenti, c'est qu'il est non-binaire. J'aimerais ça que tu le respectes puis que tu le mégenres pas, cet arbre-là.
Ouais. Mais ça peut être un chêne ou une chêne, là, c'est comme tu veux. Mais bref, on en a planté plus qui donnent du pollen et moins qui en reçoivent. Donc, c'est un des problèmes. Et là, je veux vous dire, si vous avez des allergies, parce que moi, j'attendais, même l'année d'après, là, quand ils m'ont trouvé mes allergies, l'année d'après, j'en ai fait encore. J'ai eu encore des problèmes. Pourquoi? Parce que j'aime pas ça, prendre des médicaments. Et j'attendais...
T'es un homme?
Ouais, je veux pas les prendre pour rien.
Ferme à prix.
Mais j'attendais d'être ben jamais.
Eh oui.
Tu sais, pour commencer à les prendre.
Eh oui.
Mais les antihistaminiques, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est, dans le fond, ce que ça fait, c'est ça va comme brouiller tes capteurs. Puis quand ils voient passer le pollen, il va pas se défendre contre le pollen.
OK, donc
il
faut que tu le prennes à titre préventif et non pas à titre curatif.
Exactement.
Et toi, tu avais mélangé les deux. T'es un homme.
Je suis un homme. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté masculin là-dessus, mais je suis comme ça pour je sais pas, je me dis les médicaments, c'est quand ça va vraiment plus. Mais bref, n'hésitez pas à les prendre. Dès les premiers symptômes, prenez vos antihistaminiques ou dès que vous commencez à en entendre parler, si vous savez que vous faites des allergies, bien, commencez tout de suite à les prendre parce que sinon, ça va vous créer problème. Même chose avec le remède le plus efficace, c'est les vaporisateurs nasaux. C'est le plus efficace. Là. Ça ouvre les sinus et ça vous empêche, comme moi, d'avoir des étourdissements, etc., etc. Mais c'est un réel problème. Puis honnêtement, c'est vraiment pas drôle. Lorsqu'on sort dehors, là, ça se met à nous picoter.
Ah, ça doit être épouvantable. Mais tu sais, c'est quoi la différence entre toi et moi?
Ça enlève le goût d'aller faire du jogging
ou quelque
chose comme ça dehors.
Ben non, c'est ça, j'imagine.
Ouais.
Tu sais, on dit toujours que pour la santé, tu sais, va jouer dehors, puis c'est bon pour la santé, mais ça dépend si ça empire. Mais la différence entre toi et moi, c'est que tu as commencé le segment en me demandant est-ce que j'ai de la compassion ou de la bienveillance pour les gens qui ont des allergies? Puis je t'ai dit oui. Et toi, tu me dis, ben il a fallu que moi, j'en fasse pour que j'en aie. Donc, la différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai de la bienveillance, comprends-tu? Là, j'en ai plein les poches, là. Tu sais, je peux la distribuer. Alors que toi, il faut que tu sois atteint dans ton toi-même pour avoir de la compassion pour les autres. En tout cas, je dis ça, je dis
je
rien,
trouve ça
moi.
Intense. Hein. Je trouve ça intense de ne pas être capable de fonctionner. Ouais. Pour vrai, là, pas capable de fonctionner parce que tu as des allergies saisonnières. Mais je vous le dis, maintenant que j'en ai eu, là, ça fait un drôle,
mais
un drôle de
quoi?
Feeling.
Sais-tu quoi? Puis on a déjà eu cette discussion-là où on parlait des hommes qui veulent pas aller voir le médecin, qui veulent pas, ou alors qui ont une petite grippe puis que, oh mon Dieu, c'est la fin du monde. Puis je te disais...
Ça, c'est surévalué. Parle-moi pas là-dessus, c'est par exemple. Mais, on a droit à nos symptômes, là.
Mais je te disais qu'il y a une différence fondamentale entre les hommes et les femmes, c'est que nous, dès l'âge de, des fois 12 ans, des fois 13 ans, on commence à avoir nos règles. Donc, on est habitué très rapidement à avoir conscience de notre corps. Notre corps s'impose à nous par la douleur, oui. par l'inconfort, par etc., etc. Et donc, on est beaucoup plus à l'écoute, même si c'est un cliché, on est beaucoup plus à l'écoute de notre corps qu'un garçon. Bon, oui. Donc, c'est ça qui fait qu'on est, parce que moi, j'en ai des copines, là, quand c'est leurs règles, elles ne peuvent pas rentrer travailler, là. Elles ont un syndrome prémenstruel. Mais tellement débilitant.
Ça m'a aidé à être plus compatissant sur plein de choses comme ça. Quand quelqu'un dit, peu importe la raison, les règles où je me contrôle pas, mon corps veut pas suivre, maintenant, je fais, peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est pas parce qu'elle a envie d'aller jouer au golf, cette personne-là. Mais pour ce qui est, des rendez-vous au médecin, là.
Ouais.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais pour les médicaments, ça remonte un peu à ma mère. Ma mère a un petit côté naturel.
Oh.
Tu sais, mettons, chez nous, elle faisait un sirop
une pilule,
à la
une petite
bière,
granule.
Puis tout ça chauffé. Ouais.
Oh, des remèdes de grand-mère, j'aime ça, moi.
Quand on avait une toux, là, elle faisait un sirop maison. Là,
c'est bien.
Quand on avait mal à la tête, il n'y avait pas d'aspirine, on se frottait. Là, on dirait que je tiens ça de elle un peu, de dire, non, mais il y a d'autres façons de faire que les médicaments.
Le baume du tigre quand t'avais mal à la tête.
Ouais, des affaires de
ah,
même.
C'est bon.
Là,
j'aime ça.
Du Vicks avec des bas de laine, puis toutes sortes de trucs.
Ah, le Vicks avec les bas de laine. Ah, écoute, pars-moi pas là-dessus, j'adore le Vicks. Merci beaucoup, jeune homme. On se voit la semaine prochaine.
Ben, bon week-end.
Merci.
Sophie Durocher.
Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
Décidément, ça bouge beaucoup dans le monde des médias. Cette semaine, ça a pris un petit peu tout le monde par surprise. On a appris que c'est Ricardo Larrivé. Oui, Ricardo, qui va remplacer Patrick Lagacé la prochaine saison à la co-animation de Deux Hommes en Or et Rosalie à Télé-Québec. Une émission d'information, mais aussi de divertissement, une émission d'affaires publiques. Ricardo Larrivé est avec nous. Bonjour, Ricardo.
Bonjour, Sophie.
Alors, comme ça, tu nous voles nos jobs? Je m'en vais-tu faire des recettes, moi, là?
Mais la job de. Mais tu serais très bonne, d'après moi.
Non, à part du spaghetti carbonara, je peux rien faire. Non, mais depuis quand tu frayes du côté des animateurs, des intervieweurs, des. Je te taquine.
Ben, en fait, il y a une partie de moi qui l'a toujours faite. À chaque fois que je rencontre quelqu'un depuis 25 ans, sauf que j'ai souvent une petite frustration parce que quand tu as une demi-heure pour faire une recette, ben, je veux dire, t'as pas le temps d'avoir des grandes conversations. Fait que souvent, tu rencontres du monde vraiment intéressant qui ont envie et qui pourraient te dire quelque chose de plus, puis tu peux pas. Alors, j'ai toujours eu ça derrière moi. J'ai toujours eu envie, à quelque part, d'aller plus loin là-dedans. Combien d'entrevues j'ai faites en anglais où il fallait faire des fois des capsules de 3 minutes. J'avais passé 4 heures avec quelqu'un qui était brillant, qui avait plein de choses à dire, puis ben au montage, tout ça est coupé. Je dirais que là, je vais peut-être être plus heureux par rapport à cette partie-là. Hein?
Je comprends. Mais je vais te faire un compliment, Ricardo, parce que ça fait quelques années qu'on se côtoie, hein, des fois de près, des fois de loin, mais qu'on se côtoie dans le milieu des merveilleux médias au Québec. Et il y a une chose qui me frappe, deux choses qui me frappent. Premièrement, ta qualité d'écoute. Même si on se croise dans la rue ou on se croise dans un restaurant à Toronto, quand tu parles à quelqu'un, on a l'impression, quand tu nous parles à nous, on a l'impression qu'il y a juste nous qui existent. T'es pas en train de faire ta liste d'épicerie en même temps. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que à chaque fois que je t'ai vu dans des émissions où tu étais toi interviewé, mais quand tu n'étais pas en train de te faire interviewer, tu te tournais vers les autres, tu écoutais ce que les autres avaient à dire, tu posais des questions. Donc moi, je pense que les gens de Télé-Québec, ils t'ont vu aller et ils se sont dit, ce gars-là, il va être bon en entrevue.
En tout cas, j'étais flatté. C'est toujours flatteur quand quelqu'un te dit, on te voit faire ça. L'autre chose, c'est que quand tu fais une émission, peu importe laquelle, même une quotidienne, ça occupe quand même une petite partie de ton temps. Le Ricardo, quand il cuisine pas, ben qu'est-ce qui me préoccupe? Ben l'éducation, l'alimentation des jeunes. Il y a un paquet de sujets sociaux qui m'intéressent. Puis dans le fond, on est souvent multiples. Tu sais, je faisais des farces avec toi puis la cuisine, mais Sophie Durocher, elle peut faire beaucoup de choses. Au-delà de ce pourquoi on l'identifie puis on la connaît,
tout à fait.
Comme ça pour plein
comme
de
toi.
Monde. Je veux dire, tu peux être avocat ou plombier, ben t'es pas bon juste dans ça. Là, j'ai un privilège, c'est de pouvoir utiliser cette écoute-là pour entendre les histoires des autres. Et souvent, quand on me dit, oh mais ça t'inquiète-tu, tu dois, Oui, mais écouter les histoires des autres, c'est quand même fabuleux. Ben, puis tu sais, je veux dire,
que ce soit quelque chose... pour le faire en plus.
Oui, puis que ce soit léger ou que ce soit plus, disons, corsé comme sujet, ben la personne a choisi de venir devant toi. Puis mon rôle, moi, c'est pas mon... Ce que je pense, c'est moins important. En fait, peu important.
C'est ça, les questions sont plus importantes. Les réponses sont plus importantes que les questions, c'est
ben
sûr.
Oui,
dis-moi... Bon, Pat Lagacé, on le connaît, il a un côté incisif, il a un côté un petit peu baveux, il a fait quand même les francs-tireurs pendant plusieurs années avec Richard, on sait qu'il peut être assez, donc, incisif. Toi, ton style d'entrevue, ça va être quoi, Ricardo? Comment tu le définirais?
Bonne question, je suis dans cette réflexion-là de ce que j'ai envie d'être. En fait, on peut être que ce que l'on est dans le quotidien, tu sais, je veux dire... La curiosité est la même et le ton, puis c'est drôle parce que depuis que je sais, ça fait pas si longtemps que ça, que c'est moi qui ai été choisi, ben que j'écoute toi, que j'écoute Guillaume Lepage, que j'écoute peu importe qui fait des entrevues, Penelope McQuaid, j'essaie de voir, OK, eux, comment ils se positionnent. Puis une fois que tu as fait ça, tu dis, moi, ce que j'aime, c'est les rencontres. C'est pour ça que je cuisine. C'est au-delà de la recette. Pourquoi j'ai toujours aimé la cuisine? C'est parce qu'elle amenait les gens autour de la table. Cette émission-là, c'est trois personnes autour d'une table. C'est une conversation. Et si c'était toi qui étais devant nous, c'est dire, OK, aujourd'hui, on a envie d'écouter Sophie. Puis moi, je me mets dans l'état d'esprit de dire, est-ce que, puis je vais tout le temps prendre comme exemple, si Sophie est devant moi en studio, est-ce que la question que je vais lui poser, c'est la même que j'aurais envie d'y poser si elle était dans ma cuisine ou dans mon salon?
Excellente question.
Sur le même ton. Sur le même ton. Et puis, ça va être ma base.
Comme
si on était à la maison, puis qu'on mangeait ensemble, puis que tu me parles de quelque chose qui te préoccupe, qui t'amuse, qui t'intrigue. Moi, je vais embarquer là-dedans. Je ne vais pas jouer
mais la différence. Non, je comprends, mais la différence, Ricardo, c'est que si tu reçois des gens à la maison puis tu manges un bon spaghetti carbonara avec un petit verre de Chablis, c'est pas la même chose que quand tu t'as, mettons, un politicien ou même quelqu'un qui est en plein milieu d'une controverse. Mettons que t'as Guillaume le Métis Vierge devant toi, il faut que tu le travailles au corps. Est-ce que, donc, le Ricardo qui va poser ces questions-là, c'est plus le Ricardo qu'on a vu à Masterchef chicaner les concurrents? On va, pour le rappeler à ceux qui ne l'ont pas entendu, mon beau Ricardo, on va faire jouer un petit extrait de ta...
Oui, mais ça, c'est une phrase sur 5 heures d'enregistrement, là.
Oui, oui, ben tu te justifieras après, parce que pour l'instant, c'est moi qui pose les questions, Ricardo. on écoute ça.
Les gars, la première fois qu'une de mes filles m'a fait un croquant de bouche, elle avait 13 ans. Puis elle serait même pas venue dans la cuisine me le présenter si ça avait eu l'air de ça.
Alors, on a reçu la semaine dernière la gagnante de Masterchef. Oui. Je lui ai fait jouer cet extrait-là, même si c'est pas à elle que tu t'adressais spécifiquement. Oui. Et elle disait, ouais, mais là, Ricardo, il dit qu'on aurait dû la veille préparer le croque-en-bouche, mais nous, on était installés à l'hôtel puis on n'avait pas l'équipement pour le faire. Est-ce que tu vas être aussi baveux modèle croque-en-bouche avec tes invités? Mettons, t'as Denis Coderre avec toi, vas-tu dire, coudonc, même mon enfant de 12 ans est capable de mieux gérer le Québec que vous, là?
Non, non, parce que c'est pas le même contexte. C'est pas le même contexte. Quand t'es... Puis moi, ces émissions-là, je les ai faites en anglais à plusieurs reprises, que ce soit Iron Chef, que ce soit Wall of Baker, je les ai tout faites. Et puis... Mais je suis content d'avoir vécu ça, cette mini-tempête, hein, qui était pas, tu sais, où il y avait rien, puis en même temps, tu peux pas dire qu'il y a rien s'il y a des gens fâchés,
mais
à moins que tu sois aveugle, faut au moins que tu dis la situation. Puis ça va m'aider, en fait, pour ce qu'il y a à venir. Ah. Et quand je te dis, je vais poser une question comme si j'étais dans mon salon. Ben, si j'avais été dans mon salon avec les participants qui étaient là, qui sont arrivés devant moi déjà en larmes, parce que c'est pas moi là qui l'a raté, c'est eux. J'avais pas besoin de rajouter cette couche-là au Québec. Je vais préciser. J'avais pas besoin d'ajouter cette couche-là au Québec. Si j'avais été à Toronto, on aurait été en maudit après moi que je ne le fasse pas.
Tu comprends tout à fait. Ça, c'est intéressant.
Oui, puis c'est pas, y a pas un qui est mieux ou moins bien. Je pense que c'est dans la réflexion, de la sensibilité de ce que l'on est. Si c'était à refaire, ben à ce moment-là, je pourrais juste leur dire, bon, c'est raté, j'ai pas besoin de le dire plus, vous le savez, vous l'avez vu. Puis passer à d'autres choses. Passer à ce que j'ai dit de toute façon. Ce que j'ai rajouté, qu'on a enlevé, c'est ben pas enlevé, qu'on n'a pas entendu, c'est vous avez ce que ça prend en restauration, vous n'avez jamais lâché. Vous êtes aussi créatif, sinon plus, que bien des restaurateurs. Mais si on ne l'entend plus, quand tu as fait une bêtise, là, entre guillemets, que tu as, ben, je veux dire, après ça, tu as bien beau essayer de te justifier, ça ne changera pas ce qui a été dit. Par contre, tu peux changer ce que tu diras dans le futur.
Ouais. Donc, est-ce que ça veut dire que au Québec, on est peut-être plus sensible, plus soupaulé, plus fragile qu'au Canada anglais, puis aux États-Unis?
Je garderais de tes trois adjectifs le mot sensible.
D'accord.
Soupe au lait, ça n'a rien à voir pour moi, là. C'est pas soupe au lait. Tu te fâches
j'essayais
pas.
De trouver, j'essayais de trouver une expression de bouffe, là.
Ouais. Mais le sensible, mais pas dans le côté négatif. C'est-à-dire que au Québec, puis on a toujours été comme ça dans à peu près tout ce qui nous entoure, on n'aime pas ça, la chicane. On est vite devant le malaise s'il y a quelqu'un qui dit, ne serait-ce que la vérité, même il y a certaines vérités qu'on a de la misère à dire où il faut faire attention de la façon dont on l'a dit.
T'as puis, tellement raison.
À quelque part, puis c'est une leçon, là, je veux dire, à quelque part, moi, je suis pas un polémiste. Tu sais, je à la limite, je suis pas Sophie Durocher, j'ai pas à faire ça, j'ai pas à provoquer. Moi, j'ai à rassembler. C'est pour ça que je dis que je suis content que ce soit arrivé comme ça. Ce sont mes mots. J'ai beau dire, j'ai rajouté ça, j'ai dit ça. Bon, ben c'est ça. Ben tu vis avec le futur, puis tu le fais différemment dans le futur.
Mais ce que ça veut dire, c'est que tu fais une émission de cuisine avec des petites bouchées avec du caramel dessus, puis ça provoque, comprends-tu, une controverse. Là, tu t'en vas animer une émission d'affaires publiques à Télé-Québec avec Jean-Philippe Vautier puis Rosalie Bonenfant. Si tu penses qu'il y a des controverses avec la craque en bouche... Oui.
Attends. Il y a une grande différence. La différence, c'est que... est-ce que tu es toujours avec moi?
Ben oui, bien sûr, mon chéri.
OK, parce que je te voyais plus. Ah, bon, t'es là. Parce que sans te voir, tu comprends, on est déboussolés. Non, mais la grande différence, c'est que je suis pas là pour juger. Quelqu'un qui vient à l'émission, il vient pas pour juger, c'est pas un tribunal. Il vient devant nous parce que on a envie de l'entendre. Il a eu envie ou elle a envie de venir devant nous. Et là, t'es dans une position d'écoute. Ça change tout. Mais moi, si tu me dis, juge-moi, ben là, je vais juger.
D'accord. Alors, il y a une émission déjà qui existe ou qui est un tribunal. Ça s'appelle Tout le monde en parle, mais c'est pas ça que vous faites à Deux hommes en or. Merci beaucoup, mon Ricardo. Et puis, ben, je te souhaite. Ben oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, tu vas être obligé, tu vas apprendre toi aussi à travailler avec ça. Les temps, les régisseurs qui te font des signes en disant c'est coupé, va-t'en. Alors, ça, c'est ça. Toi,
merci beaucoup, vraiment. Puis, au plaisir de se recroiser. Puis à
merde.
Ceux qui ont été blessés, ben regarde, je le ferai mieux la prochaine fois.
Ben, bah, il va et ne pêche plus. Merci beaucoup, Ricardo, l'arrivée. Puis, on va regarder ça en septembre. De cette année à la prochaine rentrée. Merci beaucoup, je te souhaite bonne chance.
Merci.
Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
Sophie Durocher.
Cette semaine, on a beaucoup parlé du fait que Émilie Bégin et Théodore Lemay-Thivierge, donc le fils de Guillaume Lemay-Thivierge, quittaient la production de la pièce de théâtre Le Matou. Ça a donné lieu à toutes sortes de rumeurs, mais on va remettre les pendules à l'heure et faire un certain nombre de mises au point avec Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste au 7 jours. Bonjour Patrick.
Bonjour Sophie, ça va bien?
Ben, je m'ennuyais de toi, là. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ta belle chevelure puis ton décor échevelé.
Je suis presque nostalgique de ma dernière année avec toi, l'année dernière.
Patrick, c'est un plaisir de te retrouver. Donc, ça a donné lieu à toutes sortes de spéculations. Quand on a appris que Émilie Bégin et Théodore Lemay-Thivierge se retiraient de la production, explique-nous un peu la genèse de tout ça. Comment ça s'est passé d'abord au début quand on a appris qu'ils allaient faire partie de la production du Matou et que Théo reprenait le rôle joué par son père au cinéma?
À vrai dire, d'abord, il faut dire que Théodore, le fils de Guillaume et Émilie, a passé en audition, mais on ne l'a pas fait chanter rien du tout, il était trop gêné. Donc, à partir de là, on lui a offert le rôle. Sauf que, quand on connaît un peu Théodore, et il faut dire aussi, il faut se ramener dans le temps où on est à l'époque où c'est avant ce que j'appelle le boulot gate,
oui.
L'histoire de Guillaume et tout, on est avant cette époque-là. Donc, Émilie et Guillaume ont un agenda ultra, ultra chargé. Il y a des « si on s'aimait », des « si on s'aimait encore », il y a le chanteur oui. masqué qui s'en vient. Et là, il y a le matou qui est là-dedans aussi. Et Théodore n'a pas d'expérience. Honnêtement, ouais. Théodore n'a jamais rien fait, n'a jamais joué dans aucune série, ne connaît pas la caméra, ne connaît pas la scène, à part les coulisses de chanteur masqué quand il assistait. Et donc, Émilie, à cette époque-là, s'est dit « ah, il va être capable, Guillaume aussi ». Mais l'enfant, plus le temps approchait, plus il se rendait compte que c'était la charge était monumentale pour cet enfant-là et que du haut de ses 6 ans, ben Théodore serait peut-être pas capable d'être sur scène dans 4 mois devant 2000 personnes. Et donc, Émilie avait... Puis en plus de ça, Émilie envisageait de faire quelques spectacles à Montréal, à Québec. Là, c'est ajouté une tournée. Et tu sais, Sophie, tu as eu un enfant mais toi-même. Là. Avec un enfant, des fois, la vie professionnelle... Et là, tous les tournages qui s'annonçaient et tout. Et là, tout d'un coup, a fallu prendre une décision. Émilie en a parlé avec Théodore et elle s'est rendue compte qu'elle n'avait peut-être pas tant envie de mettre autant de pression sur la tête de son petit bonhomme de 6 ans. Et moi-même, j'en ai parlé en entrevue avec Guillaume quand on a fait une couverture pour le 7 jours avec le fameux mythique chandail du matou.
Ouais.
J'ai dit, Guillaume, tu réalises... le poids sur les épaules d'un enfant de 6 ans qui n'a pas d'expérience. Il dit, ouais, je l'ai fait, moi, à son âge, puis mon père était avec moi. Puis je dis, Guillaume, quand t'as tourné le matou, là, t'étais avec Jean Baudin et tout, et quand tu te trompais, ben, on coupait.
Ben oui, ben c'est
ça. Puis on recommençait. Mais Théodore, lui, au Saint-Denis, au mois d'août prochain, devant des centaines et des centaines de personnes, s'il se trompe, c'est une autre histoire. Et je pense que ça a fait du chemin dans la tête d'Émilie. Je pense aussi que la pression était là. Une pression pour un enfant de 6 ans comme ça. Puis moi-même, j'avais dit à la production, si vous en cherchez un deuxième, Eliott Duprat, moi je l'ai vu à la télé.
Ah ouais, ce petit garçon-là, ah ouais.
C'est un monsieur Émile, honnêtement, puis je prends pas de crédit, mais c'est vraiment moi qui ai appelé Joël. Et c'est moi qui ai dit, « Hey, votre monsieur Émile, numéro 1 ou numéro 2, si vous cherchez une doublure, c'est Eliott Duprat. » Je l'ai vu dans les moments parfaits et tout, il était parfait.
Et très bon. Alors, t'es parfaitement conscient qu'évidemment, tout ce qui se passe en ce moment, toutes les spéculations, c'est que, évidemment, entre-temps, il y a eu le fameux boulot gate, c'est-à-dire cette vidéo que Guillaume Lemaitre Vierge a faite, où il était devant un boulot, puis il a fait une blague que certains ont considéré raciste parce qu'il y avait un mot qui commence par un N sur l'arbre.
Ouais.
Il a perdu des contrats, évidemment. Donc, des gens ont dit, bon, ben, ils ont fait 2 plus 2 égale 4, là. Ils se retirent parce que, ou alors même, il y a des gens qui sont allés jusqu'à dire, ben, c'est la production qui leur a dit de tassez-vous parce qu'on ne veut plus être associé avec Guillaume Lemaitre Vierge. Dans quelle mesure c'est une fake news? C'est-à-dire, dans quelle mesure ça peut affecter Émilie et Théodore d'avoir été associés à la controverse qui ne concerne que Guillaume?
Exactement. Puis c'est un peu pour ça. Moi, j'ai fait un peu mes devoirs. Puis à un moment donné, je vais te dire, le matin où Entourage a envoyé son communiqué, moi, je l'avais déjà eu la veille.
Ouais.
Et là, je m'étais dit, demain, ça va être le bordel. Et ce qui m'a un peu surpris, c'est même des gens des médias, des journalistes que je connais, chevronnés, paraît-il que ce serait pas relié. Et moi, j'ai appelé Entourage, je dis là, je vais mettre les pendules à l'heure. Donc, dites-moi, quand est-ce qu'il y a eu les auditions? Quand est-ce que c'est arrivé? On va dire les vraies affaires.
Mais oui.
À un moment donné, Sophie, dans ce dossier-là, comme dans un autre, tu sais, les quand dira-t-on, puis la machine à rumeurs, à un moment donné, ça devient lourd. Et moi, je me suis dit, je vais aller au fond de l'histoire, je vais publier quelque chose. Puis à partir de là, et là, j'ai parlé à l'équipe de relations de presse d'Entourage. Et moi, je sais qu'Émilie avait pris sa décision en janvier, avant de partir en vacances et tout. Et donc, moi, je savais que Théodore et Émilie n'étaient plus de ce spectacle-là. Entourage, je ne l'ai pas annoncé tout de suite. Bon, là, il y a des gens qui ont dit, pourquoi Entourage, je ne l'ai pas dit? Mais Entourage, je ne pouvais quand même pas prévoir qu'il y aurait le fameux boulot de gate
ben,
le
voilà.
15 mars et qu'il devait pallier à ça à l'avance. Et donc, les auditions, il y a eu un appel d'audition pour remplacer le rôle de M. Émile et pour remplacer le rôle de Loretta. Et les auditions ont eu lieu à Montréal le 26 février. Et ce soir-là, Eliott Duprat a eu déjà la confirmation qu'il avait le rôle, tellement Joël était Joël Legendre, qui est le metteur en scène, et l'équipe ont été charmés par ce petit garçon-là. Et
donc si des auditions ont lieu ben oui,
le
c'est
26
ça.
Février,
ben
le,
là,
le Boulot Gate le 15 mars, ben là, il me semble que c'est clair. Et c'est un
bon,
peu
mais c'est pour ça. Mais oui, mais c'est pour ça que j'adore ça, parce que faisons la chronologie. Janvier, Émilie et Théo décident que ça se fera pas, donc ils préviennent la production, donc il y a des nouvelles auditions. Ouais. Les auditions se font le 26 février. Le Boulot Gate arrive à la mi-mars. Bon, ben je veux dire, moi là, c'est, ça y est, c'est clair. Merci, bonsoir. Elle est partie, comme dirait l'autre. Mais c'est ça qui m'agace. C'est ça qui m'agace, et je vais dire quelque chose, Patrick, c'est que beaucoup de gens qui spéculent, puis disent « si, puis je pense que c'est si, puis je pense que c'est ça », oublient que derrière, c'est, quand on dit « il y a une affaire cible » ou « il y a un machin gate », il y a des individus, et je ne suis pas en train de dire qu'il doit avoir un traitement spécial, mais je veux dire, Théo, là, il y a 6 ans, Émilie est mariée avec Guillaume. Guillaume, tout ce monde-là, là, est-ce qu'on peut leur... Excuse-moi, je vais être vulgaire, mais est-ce qu'on peut leur crisser la paix?
Exactement. Puis aussi, c'est comment on peut-tu juste arrêter cette machine-là? Tu sais, Émilie, là, elle n'a rien fait. Théodore n'a rien fait. Et je pense aux autres enfants de Guillaume. Et moi, mon inquiétude à ce moment-là, c'était l'intimidation dans les cours d'école et tout ça. À un moment donné, ça déborde. Bon, moi, je défends pas Guillaume, je ne suis pas là pour faire son procès non plus, mais je considère
que quand
ça déborde, quand ça déborde, puis qu'on attaque la conjointe, qu'on attaque les enfants, qu'on stipule, ben c'est à cause de lui qu'ils ont perdu leur rôle, on peut-tu juste arrêter? À un moment donné, ça devient essoufflant, puis à un moment donné, je me suis...
Rapidement, Patrick.
Je me suis laissé prendre au piège où je répondais à tout le monde sur les réseaux. Non, vérifiez vos affaires. Là, après ça, je me suis dit, hey, je vais faire un post, je vais en parler ici et là, dans le 7 jours et tout, et on va juste, allons à la source, puis tu sais,
voilà,
fouillons un
parfait.
Petit peu des fois pour avoir les réponses.
Ouais, ben écoute, c'est parfait. C'est pas compliqué. Janvier, février, mars, il me semble que tout le monde est capable de compter jusqu'à 3.
La chronologie est là.
La chronologie est là. Merci d'avoir rétabli les faits. Je trouve que c'est extrêmement important et tu l'as fait de façon magnifique et claire. Patrick Delisle-Crevier, donc journaliste au 7 jours. Merci beaucoup, Patrick.
À bientôt, Sophie.
Sophie Durocher.
Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
Si belle Olivier, journaliste à la recherche et chroniqueuse, j'allais dire multifonction. un de tes sujets préférés qui est quand même revenu souvent, c'est de nous parler d'Elon Musk. Qu'est-ce qu'il a fait?
Ben, je me disais ça moi aussi. Il est souvent au cœur de controverses, mais cette fois-ci, je pense que c'est une bonne raison. C'est plutôt le réseau social X plus que Elon Musk qui est au cœur de ça. En fait, c'est vraiment une guerre ouverte pour la liberté d'expression qui oppose X et le Brésil. Fait que je vais mettre un peu la table sur qu'est-ce qui se passe. Depuis quelques jours. Donc, c'est samedi dernier, le 6 avril, il y a Elon Musk qui accuse un juge de la Cour suprême au Brésil en lui disant « Vous avez fait de la censure et vous avez trahi la constitution brésilienne. » Il affirme que ce juge-là, en fait, a forcé Twitter, avant que lui-même rachète le réseau social, donc avant 2022, a forcé Twitter à suspendre certains comptes et donc à fournir des informations personnelles de certaines personnes, dont des messages privés. Ce qu'il n'a pas le droit de faire sans que ce soit légitime, sans qu'il y ait d'enquête, sans qu'il y ait de raison de faire. Donc, il publie ça samedi, tout le monde s'enflamme. Et là, Musk dit, nous, on va lever toutes les restrictions que la Cour suprême avait appliquées. Donc, tous les comptes qui étaient bloqués par la Cour suprême, nous, on les réactive et on s'en fout si ça nous coûte de l'argent. Finalement, le juge répond à ça, pas directement sur X, mais répond dans un arrêt judiciaire que Musk est en train de faire une instrumentalisation criminelle du réseau social. Et le menace, en fait, de devoir payer jusqu'à 27 000 $ pour chaque compte réactivé.
27 000 $, c'est comme le screening, là, c'est la petite monnaie
pour
que t'as
lui,
dans le fond de tes poches pour Musk.
Tu vas aimer ce qu'a répondu Elon Musk à ça, parce que même si le Brésil est un de nos plus gros, notre quatrième plus gros client, nous, on considère que les principes comptent plus que le profit. Oh. Mais ça vient d'où tout ça?
Ouais.
Moi, je lisais ça, je me dis, coudon, ça vient d'où cette guerre-là?
Ben oui.
Ben, c'est une enquête qui a été publiée, puis vous allez voir ça, c'est circulé, puis je vous invite à aller la lire, d'un journaliste indépendant qui prouverait en fait que la Cour suprême a agi de manière illégale pour contrôler certains discours sur X. Et c'est qui ce journaliste-là, Sophie? C'est Michael Schellenberger.
Ben là, Monsieur WPAT.
Monsieur WPAT. Oh! Hein, l'instance, donc, qui est en matière de soins liés au genre. Tu sais, je vous en avais parlé dans une chronique, puis on avait révélé que les médecins, bon, agissaient de sans consentement éclairé des patients. C'est encore lui qui frappe
avec ça. Sans s'assurer qu'il pouvait avoir le consentement éclairé.
Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est encore lui qui frappe avec ça. Wow. Alors, ce qu'il démontre dans cette... on l'aime. Ce qu'il démontre dans cette nouvelle enquête, c'est que Alexandre Moraes, le juge, dans le cadre d'une lutte à la désinformation, dit-on, a donc exigé illégalement qu'il y ait des données privées qui soient révélées. Il n'aurait jamais dû faire ça. Il a exigé l'accès à des données internes de Twitter autres, ce qui viole complètement la politique de la plateforme. Et il a censuré lui-même de sa propre initiative, sans personne en arrière qui le poussait, des messages publiés par des parlementaires du Congrès brésilien qui sont des fervents défenseurs de l'ancien président de droite, Bolsonaro. Donc là, ce qu'on est en train de voir, en fait, c'est qu'un juge est finalement pas mal partisan, alors qu'il devrait représenter, qui est dans une démocratie, c'est quelqu'un qui doit exercer la loi, est en train finalement de se positionner complètement dans un débat politique, et c'est entre autres ce qu'on lui reproche. Puis lui, c'est un juge super controversé, parce que non seulement il est dans la Cour suprême, mais il est aussi président du Tribunal supérieur électoral, donc c'est cette instance-là qui s'occupe de la politique, et qui avait fait en sorte que, Bolsonaro puisse pas se représenter aux prochaines élections. Donc, c'est de la partisanerie qu'un juge ne devrait pas avoir. Donc là, l'enquête est en train de démontrer ça. Michael Schellenberger et son équipe ont présenté les conclusions de l'enquête à Alexandre Moraes, à la Cour suprême du Brésil, à la Cour électorale. Personne lui a répondu. Et les dernières nouvelles de cette saga qui date de jeudi 11 avril ce matin, ben c'est Elon Musk qui dit « Ah ah! » X vient de recevoir des informations de la Chambre des représentants des États-Unis qui concerneraient des mesures prises au Brésil qui violaient la loi brésilienne. Il y en avait des centaines, voire des milliers. Ça devient spicy.
OK. Là, ça devient spicy. On peut sûrement trouver un petit mot en français
épicé,
pour
Sophie. Ça. Épicé, Sophie!
Ben non, mais ça devient...
ça devient juteux.
Croustillant. Oui, ça devient croustillant. Ce qui est absolument fascinant, c'est que... Elon Musk est en train de devenir une figure qui va au-delà de... Écoute, il y a des doigts dans chaque pays et que chaque pays soit à moi, comme disait Jacques Brel. C'est assez fascinant.
Un grand pouvoir, en fait, sur justement qu'est-ce qui peut être dit, qu'est-ce qui peut ne pas être dit. Tout ce qui concerne la liberté d'expression. Mais en même temps, lui, c'est un fervent défenseur de ça. Il nous dit à nous... Je vous offre une plateforme où tout peut être dit. Et là, maintenant, peut-être que tu as remarqué, mais tu vois que des gens peuvent commenter et rectifier les faits quand des gens publient certaines choses. Puis je trouve ça intéressant parce que justement, dans le cadre de ma recherche tantôt, quelqu'un montrait c'était quoi la loi brésilienne que Moraes avait brimée. Puis finalement, quelqu'un a corrigé en disant non, c'est pas tout à fait ça. Donc bref, c'est une plateforme où maintenant, je pense que la majorité des gens se renseignent énormément de liberté d'expression. Et là, la justice brésilienne pourrait peut-être se faire voir finalement sous son vrai jour, du moins cet homme en particulier, Alexandre Moraes.
Moi, je pense que t'es tellement bonne, devrais y travailler pour Michael Schellenberg.
Hey, écoute,
tu vas lui dire, tu mets ça dans ton CV. Moi, j'ai été journaliste à la recherche à Cube. Ils vont voir ça, ils vont
dire enquêtes,
tout de suite.
Mais très passionnant quand même, ce qu'il nous révèle.
Merci beaucoup, Cybèle Olivier. Merci à Marianne Bessette et Maximile Sawyer à la recherche. Merci à Tristan Brunet-Dupont. Je serai absente demain pour des raisons personnelles. Je vais être de retour lundi. Cube.